Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Anais Sauty de Chalon. L'homme, son devenir, la science, qui sommes-nous, où allons-nous? Ce sont bien sûr des interrogations universelles et éternelles. C'est l'occasion d'y revenir lorsque certains travaux nous amènent précisément à y réfléchir. C'est le cas de l'homme artificiel, et ce mot artificiel a de quoi quelque peu nous effrayer, puisque qui dit artificiel dit peut-être cette capacité de l'homme de se créer lui-même, et là on imagine, on n'ose pas imaginer justement. L'homme artificiel, c'est le titre de l'ouvrage de Jean-Pierre Dicques. Bonjour Jean-Pierre Dicques.
Bonjour, il y a aussi ma fille qui s'appelle Godeline Lafargue.
Qui a contribué,
moi en tant que médecin, c'est la partie scientifique et médicale, et ma fille en tant que philosophe, elle est professeure de philosophie en université.
C'est donc un ouvrage à double détente, une réflexion à la fois philosophique et médicale, éthique.
Médicale et sociologique aussi.
Et sociologique. Et aussi une réflexion, et c'est un peu pour cela que vous êtes ici pour nous parler, un peu une prospective, savoir vraiment comment vous, à la lumière de vos travaux, vous avez pu nous indiquer éventuellement quels sont les risques, quels sont les dangers, les périls que nous courons, où nous allons précisément, où la science, où la technoscience nous emmène. L'homme artificiel aux éditions de Paris. Essai sur le moralement correct. J'ajoute une chose, c'est que vous êtes président de l'ASIM, l'Association catholique des infirmières et médecins. Un mot ?
Oui, bien, c'est une association évidemment qui défend un certain nombre de valeurs éthiques et qui essaye de les distinguer, mais qui essaye de, si je puis dire, donner un petit peu de conscience qui souvent manque à la science, selon le mot de Rabelais que tout le monde connaît. Et évidemment, nous nous situons bien sûr dans la ligne traditionnelle de la pensée de l'Église et notamment l'enseignement des papes, surtout d'ailleurs des deux derniers qui nous ont amené énormément de grains à moudre, si je puis m'exprimer comme ça, en cette matière, et notamment concernant à la fois la culture de mort qui a été dénoncée de multiples fois, mais aussi la défense de la vie, ainsi que tout ce qu'elle a de positif dans une optique purement chrétienne et je veux dire, éternelle.
Et ici même, à l'Académie des sciences morales et politiques, sous la coupole de l'Institut, on ne pouvait passer à côté d'une réflexion sur justement le devenir de l'homme. Où allons-nous précisément face à ce progrès scientifique qui a obligé donc les deux derniers papes, Jean-Paul II essentiellement pour l'instant, à se prononcer sur les questions d'ordre éthique, bioéthique, de manière fort abondante.
Oui, mais vous dites Jean-Paul II, mais le pape Benoît XVI a fait un discours tout à fait remarquable au synode, où il explique très très bien un certain nombre de choses. Par exemple, il prend la comparaison des vignerons homicides. Bon, ce sont des vignerons donc qui, dans l'Évangile, tuent leur maître. Et il pose la question, mais pourquoi ces vignerons veulent-ils tuer leur maître? Eh bien, tout simplement pour prendre la place. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer, même tout à fait. C'est qu'en réalité, l'homme tente à prendre la place de Dieu et il le prétend, il le revendique, je veux dire, de manière objective. Un certain nombre de penseurs, nous y reviendrons, comme Attali, comme Pierre Simon, par exemple, comme Friedman, disent cela. Ils disent que nous sommes pratiquement à l'aube du huitième jour, le septième jour, Dieu se repose, et puis après, c'est tout, il dort, c'est terminé, et nous descendons du ciel sur la terre, et c'est l'homme qui prend en main la vie, qui prend en main sa destinée elle-même. Alors Dieu est mort. Dieu est mort, il dort, on n'a plus besoin de s'occuper d'eux.
L'essai du professeur Bernard Debré, La revanche du serpent, ne doit pas vous laisser indifférent.
Absolument. Alors ça, c'est tout à fait significatif au niveau du vocabulaire, parce que là, on peut aller très très loin si on suit sur ce titre. En réalité, ce qu'il présente, c'est que le serpent, c'est-à-dire le démon lui-même, qui est le grand tentateur d'Adam et Ève, est en train de prendre sa revanche. Bon, pourquoi ? Eh bien, parce que après la création du monde, Adam et Ève sont donnés de tous les pouvoirs possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'ils ont la domination sur les animaux, sur les astres, sur la terre, sur les végétaux, sur tout ce qui existe. Mais il y a une seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est créer leur propre vie. Ils peuvent procréer, c'est-à-dire créer pour
Ce qui est déjà considérable, le seul fait d'être associé à la création,
est déjà considérable.
Pour reprendre la tradition chrétienne, est déjà tout à fait considérable.
Alors pour, pro, ça veut dire pour ou en faveur d'eux. Donc ils peuvent créer en faveur de Dieu lui-même, ils peuvent engendrer, mais ils ne peuvent pas créer. Alors le défi du serpent, c'est cela, c'est de dire à Adam et Ève, mais vous serez comme des dieux, c'est-à-dire que vous aurez la clé de l'arbre de vie. Vous aurez la pomme qui est le symbole de la puissance des dieux et de la création des dieux. Mythe qui en réalité est vieux comme le monde puisqu'on le retrouve dans la Grèce antique avec des gens comme Prométhée ou comme Dédale dont on reparlera peut-être si nous avons
et
le temps.
Et jusqu'à Faust pour une période un peu plus
Alors,
récente.
Alors bien sûr, Faust, évidemment, par exemple dans Faust de Goethe, il y a cette réflexion, l'ancien mode de procréer, nous le déclarons vaine plaisanterie.
Ah, déjà à l'époque.
Ah, dit Faust, c'est du temps de Goethe. Hein. Méphistophélès arrive et Faust est là avec son homoncule. Et alors, Méphisto lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il lui dit, bah, je suis en train de créer un homme. Et l'ancien mode de procréer, nous le déclarons vaine plaisanterie.
Mais la formulation est assez
exactement,
prophétique.
Oui, oui, elle est tout à fait prophétique.
Séparer la sexualité de la fécondation.
Absolument, mais absolument. Alors j'aime bien ce mot de mode parce que toujours dans le synode, le pape a utilisé ce terme et il a expliqué que la morale n'était pas une mode, qu'elle n'était pas, selon l'origine du mot mono, qu'elle n'était pas modifiable, qu'elle n'était pas modulable. Vous voyez, et le mot est très fort. Alors la morale n'est pas modulable, ça n'est pas une mode, dit le pape. Et en réalité, les scientifiques se trompent quand ils font, ou les gens qui écoutent les scientifiques pensent que la médecine, celle que je pratique, est une science exacte. Je peux vous dire qu'entre le moment où je me suis installé il y a 30 ans et maintenant, tous les traitements sont bouleversés. Et ce qui est vérité un jour est dogme et devient d'un seul coup absolument prohibé. Avant, on soignait l'hypertension par de la réserpine. Maintenant, on dit que ça donne le cancer. Et c'est un traitement qui est abandonné depuis 20 ans. Bon, au début du siècle, on soignait la syphilis avec de l'antimoine, comme son nom l'indique, le moine qui l'a manipulé en est mort. Bien, on soignait par des intraveineuses de cyanure de potassium, ce qui est un moyen d'exécuter les condamnés à mort ou d'empoisonner la nature ou d'empoisonner les animaux ou les rats. Bon, on soignait les gens et on les tuait rituellement avec ça. Mais en début du siècle, si on n'avait pas soigné la syphilis de cette manière-là, on aurait été en prison. Maintenant, si vous soignez une syphilis avec du cyanure de potassium et de l'antimoine, vous irez en prison.
Oui, mais on est dans l'ordre des moyens, là, Jean-Claude.
Dans l'ordre des moyens, tout à fait.
Qui évolue avec le progrès, inévitablement.
Oui, bien
et ça, les scientifiques, y compris
sûr.
Les plus matérialistes d'entre eux, ne le nient pas.
Bien sûr, mais ce qu'ils veulent faire en réalité, c'est laisser croire que leur situation est absolument exacte et qu'eux ont raison et que la morale est une mode et qu'elle peut changer et qu'eux peuvent faire ce qu'ils veulent au nom de la science. Or, la science, contrairement à ce que dit une de vos auditrices dans cette lettre que je tiens, la science est obligée de tenir compte de l'éthique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fondé un comité d'éthique, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il est évident que quand les nazis plongeaient de l'eau glacée des Polonais pour pouvoir déterminer le temps qu'ils vivraient, eh bien évidemment, c'était de la science. C'était de la science. Bon, personne ne peut approuver cette manière de faire. Eh bien, ce qui m'inquiète et ce qui m'affole, c'est que notre science sans conscience évolue inéluctablement vers des horreurs absolues dont nous voyons déjà un certain nombre de signes, comme par exemple les avortements tardifs qui tiennent de l'atrocité pure et simple, qui consiste à chercher le cœur d'un enfant au travers du sein de sa mère par une aiguille, de lui injecter dans le cœur en cherchant les cavités cardiaques, une solution hyper concentrée de chlorure de potassium, moyen qui est utilisé pour exécuter les condamnés aux États-Unis, vous comprenez, et l'enfant se débat pendant des heures. C'est l'horreur absolue. Alors on fait ça, et Madame Aubry a refusé de regarder un avortement quand elle a allongé les délais de la loi. Il aurait fallu que les gens voient ça. Eh bien, je suis sûr qu'on montrerait à la télévision un avortement tardif. Il n'y a plus personne qui accepterait de soutenir le principe d'un avortement, en réalité.
Il y a même eu des témoignages, d'ailleurs, recueillis dans la presse, enfin du moins dans la presse radio, de femmes qui avaient avorté et qui, en ayant eu leur second enfant, ont eu un enfant dépressif parce que leur ventre avait en quelque sorte gardé en mémoire l'acte d'avortement.
Mais bien sûr, parce qu'on découvre de plus en plus, je vous dis en tant qu'obstétricien, des relations qui existent entre la mère et son enfant. Mais ces relations sont de type hormonal, sont nanoscientifiques, elles agissent de manière infime, mais aussi elles sont de manière purement physique. C'est-à-dire qu'une femme qui câline son enfant dans son sein l'habitue en quelque sorte à avoir un caractère pacifique, un caractère doux. En revanche, si sa mère entend du hard rock ou du gothique à longueur de journée, eh bien on peut être sûr que l'enfant sera hyper excité en arrivant au monde et qu'il est gravé définitivement dans ce sens-là.
Alors Jean-Pierre Dicques, L'homme artificiel, essai sur le moralement correct aux éditions de Paris, vous nous avez dépeint un peu l'horreur de demain. C'est un peu catastrophiste, non?
C'est pas du tout catastrophiste. Je vais vous donner un exemple très précis, tenez, pour vous dire que c'est pas catastrophiste. Je ne ferai pas de la propagande pour cette réunion, mais il y a une association féministe dont je ne vous cite pas la déclinaison, fait un colloque intitulé à la mairie de Paris, c'est-à-dire pas très loin d'ici. Un colloque qui dure une journée, qui est présidé par Madame Hidalgo, première adjointe au maire, ou adjointe, je ne sais pas comment il faut dire. Et le thème majeur de ce colloque, qui dure une journée, est le suivant: vers une procréation sans femme. Bon, c'est clair. Alors, ce que je dis dans mon livre, c'est que l'humanité veut arriver à créer elle-même sa propre vie humaine, par elle-même. Elle le fera par le clonage, elle le fera par la parthénogenèse, elle le
La
fera par...
parthénogenèse.
Alors la parthénogenèse, c'est ce que l'on voit dans la nature, si vous voulez. Un certain nombre d'animaux se reproduisent par parthénogenèse. Par exemple, les abeilles parthénogenèses donnent les faux bourdons. Alors que quand la reproduction est sexuée, à ce moment-là, elles ont des ovrières. Bien, je donne dans mon exemple la fourmi de feu, dont les mâles et les femelles se reproduisent par parthénogenèse, mais en même temps ont une activité sexuée. Vous voyez, une double activité. Alors que de quoi il s'agit? Puisqu'on a un petit peu de temps, je vais vous résumer. Vous savez que nous avons un stock de chromosomes qui est de 48, vous, moi, tout le monde, bien, et que toutes les cellules de notre corps ont ce stock de 48 chromosomes, y compris les cellules qui vont arriver à la procréation, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Donc vous comptez bien que si d'un côté il y a 48 chromosomes dans le spermatozoïde et qu'il y en a 48 chez l'ovule, on arrive au double au niveau du potentiel chromosomique. Bon, ce qui rend la vie impossible. La vie humaine impossible. Aussi bien que le spermatozoïde que l'ovule doivent éjecter la moitié de leur patrimoine chromosomique, de manière à se retrouver à la moitié de 48. Puis après ça, se joindre avec le partenaire, si je puis dire, pour obtenir 48. Alors le principe de la parthénogenèse, c'est d'empêcher l'expulsion du petit globule qui comporte la moitié du patrimoine chromosomique supplémentaire qui vient en trop. Bien. Et c'est ce qui se passe chez les faux bourdons. Et par exemple, on a découvert que le varan de Komodo se reproduisait de cette manière-là, ce qui est assez curieux. Bien. Alors, les savants ont réussi à empêcher cette parthénogenèse, c'est-à-dire ils ont empêché l'expulsion de la moitié du patrimoine génétique de l'ovule. Et à ce moment-là, eh bien, nous avons 48 chromosomes qui peuvent se développer et qui sont des embryons, en fait. Alors, l'ennui, entre guillemets, si je puis m'exprimer de cette manière, c'est que ça ne peut être que des femmes, hein, puisque ça vient que de l'ovule. Il n'y a pas de potentialité masculine, puisque l'ovule porte la potentialité masculine, en
Ce qui
quelque sorte.
signifie que si l'on veut continuer sur cette voie,
Ça serait une population d'Amazones.
voilà, mais il faut constamment des ovules alors.
Alors, il faut des ovules, oui.
Puisque si on veut alimenter le système.
Absolument. Alors, le problème des ovules, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, mais en réalité, la question des cellules souches qui est proposée et qui est défendue, y compris par un certain nombre de parlementaires, il y a Pannier, il y a Fagnier, pardon, il y a Claës, mais il y a aussi un groupe de savants qui ont fait une proposition autorisant le principe du clonage dit thérapeutique. Bien. De quoi il s'agit? s'agit ? Il s'agit, si vous voulez, de cloner des embryons pour en récupérer les cellules souches. Alors, je vous rappelle ce que c'est que les cellules souches. Ce sont des cellules qui sont à la base de la reproduction de tous les tissus et qui se trouvent dans notre organisme, notamment au niveau de la moelle osseuse, mais aussi au niveau de la graisse, au niveau du sang, au niveau des poils. On en trouve absolument partout. Et alors, ces cellules ont un pouvoir mirifique de reproduction. C'est-à-dire que si on prend des cellules
donc de réparation.
De réparation des tissus. Et on connaît cela depuis très très longtemps parce que le principe de la greffe de sang dans les leucémies, eh bien c'est tout à fait ça.
Jean-Pierre Dicques, on s'arrête quelques instants puis on reprend tout de suite sur l'homme artificiel.
Canal Académie vous propose une nouvelle rubrique, l'Académie des blogs. On estime qu'actuellement, il s'ouvre un blog toutes les 2 secondes dans le monde et nous ne pouvions pas passer à côté d'un tel phénomène de société, surtout lorsque les académiciens s'y mettent aussi. Alors retrouvez tous les lundis un blogueur du monde de l'édition, de la presse, de l'enseignement ou tout simplement amateur de littérature pour associer l'utile à l'agréable. En compagnie de David Abiker et d'Élodie Courtejoie, nous vous emmenons à la découverte de la crème de la blogosphère.
Éclairage avec Jean-Pierre Dicques, l'homme artificiel aux éditions de Paris. On est en train de voir quelles sont les techniques que l'homme mettent à l'œuvre pour justement arriver à cet homme artificiel.
Alors voilà, alors je voudrais
les
répondre.
Cellules souches d'abord.
Voilà, alors les cellules souches, si vous voulez, le seul intérêt des cellules souches dites embryonnaires, malgré tout ce qu'on nous raconte, c'est qu'elles ne donneront pas de résultats avant 20 ans. Or, les cellules souches adultes qui ont été découvertes ont déjà des applications. Je vais vous en donner un exemple très précis qui me concerne moi-même. J'avais une nécrose de la hanche et il était question de me faire une implantation de cellules souches qui auraient été d'ailleurs récupérées sur ma propre moelle osseuse au niveau de la zone de nécrose. Malheureusement, elle était trop étendue pour pouvoir user de ce procédé qui commence juste à être connu à ce niveau-là. Mais on met des greffes de cellules souches depuis très longtemps pour renforcer, par exemple, des greffons osseux. Mais on s'en sert aussi, par exemple, en matière de cardiologie pour régénérer le cœur après des infarctus. Il y a des choses étonnantes. Par exemple, on a fait des injections de cellules souches adultes, bien sûr, chez les femmes qui étaient incontinentes urinaires. Ça représente le tiers des femmes. Hein. Un tiers des femmes, après la ménopause, sont incontinentes, perdent leurs urines. On injecte donc des cellules souches et ça régénère le col de la vessie et le taux de succès est faramineux. Il est de 92%. Alors tout ça, je donne les références, je le prouve, je n'invente rien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça change ?
Juste une petite distinction, oui. Qu'est-ce qu'une cellule souche adulte par rapport à une cellule souche embryonnaire ?
Eh bien,
l'une est prélevée sur un embryon et l'autre sur un corps humain
sur un
vivant,
corps humain,
normal.
Voilà, mais l'idéal étant de la prélever sur l'homme lui-même qui est concerné.
C'est ça.
Prenons un exemple dans la myopathie. Les Italiens ont réussi à prélever des cellules souches qui se trouvaient dans les artérioles des myopathes. Et il s'agissait de chiens expérimentaux. Ils les ont développés et ils ont guéri les chiens avec ces lignées de cellules souches dites adultes, en quelque sorte. Alors pourquoi veut-on absolument des cellules souches embryonnaires ? Bon, eh bien tout simplement parce qu'on a besoin d'ovules. Parce que pour obtenir des ovules, c'est pas facile. Il faut trouver des volontaires d'abord. Bon, alors comment ça se passe ? On endort la personne qui est volontaire, on lui gonfle le ventre exactement comme un pneu, et après ça, il faut avec un célioscope, c'est-à-dire un tube, aller rechercher des ovules. Après une stimulation de l'ovaire qui est faite dans les jours qui précèdent l'intervention chirurgicale et qui est en tant que telle douloureuse, parce qu'elle entraîne des douleurs abdominales à tel point que quelquefois on se demande s'il ne s'agit pas de péritonite ou de rupture de kyste de l'ovaire. Alors dans des circonstances pareilles, c'est pas facile de les récupérer. Et je crois que les volontaires ne se bousculent pas au portillon. Et c'est pour ça que le professeur Chuang avait payé ses secrétaires pour...
Le Sud-Coréen
qui prétendait avoir réussi qu'à cloner. Bien. Si bien que l'intérêt des cellules souches embryonnaires, c'est qu'elles sont dites totipotentes, c'est-à-dire qu'on peut les orienter dans tous les sens. puisque ce sont des cellules jeunes qui ne sont pas encore dites différenciées. Autrement dit, elles n'ont pas pris une différence particulière. Elles ne sont pas orientées vers un tissu musculaire ou nerveux ou osseux. Et les gamètes, elles sont théoriquement capables de s'orienter partout. Alors c'est très intéressant si on peut les orienter vers les ovules. Et le seul intérêt actuellement, et Wilmut l'a dit, mais il n'est pas le seul.
Wilmut,
c'est le monsieur qui a cloné Dolly, dont tout le monde a entendu parler, qui a été la première brebis clonée. Wilmut vient d'écrire un livre où il en anglais, qui raconte l'immense déception des cellules souches embryonnaires en matière thérapeutique. Et il conclut, le seul intérêt, c'est d'obtenir des ovules. Et pourquoi veut-on obtenir des ovules ? Eh bien, tout simplement pour réussir des clonages.
Donc des clonages humains.
Des clonages humains ou des clonages animaux. Des clonages animaux. C'est ce qui se passe puisque vous savez qu'on a déjà réussi à cloner une douzaine d'espèces assez courantes, mais le cas le plus extrême était en celui d'une jument qui a même été capable de se reproduire elle-même.
Mais alors, Jean-Pierre Dicasse, pourquoi a-t-on besoin d'énormément d'ovules pour réussir un clonage ? Il suffit d'en avoir, pourquoi pas, évidemment c'est un raisonnement de naïf. Quelques-unes.
Je crois que
pourquoi susciter une industrie ?
Eh bien, parce que je crois que Wilmut, pour obtenir sa fameuse Dolly, a eu besoin de plus de 3000 ovules. Donc,
qu'il utilisait les unes à la suite des autres ?
Ah oui, par groupe, oui, bien sûr, bien sûr. Hein, avant de réussir son clonage. Bon, le fameux Zhuang, là, il a eu besoin de 1250 ovules.
Et pourquoi ça ne marche pas ? On se dit, ça marche ou ça ne marche pas, mais pourquoi essayer 3000 fois ?
Parce que c'est difficile actuellement, comme toutes les techniques, quelles qu'elles soient au monde, avant d'avoir des bolides qui roulent à 300 à l'heure, on avait des vieilles voitures qui roulaient à 10 à l'heure. Eh bien là, c'est la même chose. Maintenant, on a beaucoup de difficultés à cloner. Ça représente quelque chose de terriblement difficile à réaliser. Et il faut des ovules. Le gouvernement français, je vous le signale, a autorisé à récupérer
l'importation de cellules souches embryonnaires.
L'importation de cellules souches embryonnaires et aussi l'usage des embryons dits en déshérence.
Surnuméraires,
voilà. C'est-à-dire les gens qui...
C'est-à-dire sans projet parental.
Voilà, comme on dit de manière très élégante en novlangue, pour ne pas appeler les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire les gens qui ont abandonné leur embryon ou leur futur enfant.
Les mots sont très aseptisés et jouent un rôle dans cette
histoire. C'est fondamental. Bien. De même qu'il est question de remplacer le mot de clonage par remplacement nucléaire ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de ce genre. Transposition nucléaire, par
c'est
exemple.
Ça.
Vous voyez ? Bon. Alors, cependant, les choses avancent très vite en matière de clonage, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que il est évident que quand on veut réussir quelque chose, que ça soit le premier vol d'aviation qui ait été effectué, ou la création de la première voiture, ou l'usage des premiers médicaments très actifs, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse au niveau de l'expérimentation. Si bien que le clonage se fait actuellement dans le secret des laboratoires parce qu'il est évident qu'on ne peut pas mettre sous les yeux les conséquences de cette casse. Je vous rappelle que le Distilben, on a mis 40 ans pour se rendre compte qu'il donnait des cancers de la vulve, non pas au niveau de la mère, mais au niveau de sa fille. Et que le Distilben entraînait des malformations du tractus génital de l'homme, c'est-à-dire des garçons, et on a mis 50 ans pour se rendre compte de ça. Si bien que...
Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire, là, Jean-Pierre Dicasse, que l'on est en train de cacher des monstres fabriqués en laboratoire ?
Certainement, oui. Je pense que les savants doivent être extrêmement prudents. Autant on admettrait que le premier chat cloné ait sur le ventre une grande tache blanche. Bon, ça a amusé les gens. On a dit, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas bien été dans le clonage. Vous savez, le premier chat qui a été cloné avait une tache blanche sur le ventre. Bien. Mais imaginez qu'on clone un être humain qui ait une tache rouge au niveau du visage. Ça l'afficherait mal. Ça serait très mal vu. Si bien qu'on est obligé d'être très prudent, et notamment les savants sont obligés de sacrifier l'arga manu, largement la totalité des êtres qu'ils ont pu engendrer et qui auraient pu être malvenus. Mais ne croyez pas que ça soit quelque chose d'extraordinaire en tant que tel, parce que c'est ce qui se fait tous les jours dans le cadre de la fécondation in vitro. Qu'est-ce qu'on fait dans la fécondation in vitro ? On prélève, par exemple, 5 embryons par la méthode que je viens de vous donner. C'est ce qu'on appelle la procréation médicale assistée. Donc, on fait une célioscopie, on récupère et on fait des embryons. On les congèle, on essaye d'en avoir plus ou moins, bien. Et après ça, on les implante. Selon les pays, on a le droit d'en implanter 5, 2, en Italie, etc. Bien. Alors, on les implante, mais avant de les implanter, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on regarde s'ils se développent. Alors, vous avez 5 cupules comme ça, l'une à côté de l'autre, hein, et c'est même pas avec un microscope, c'est avec simplement un binoculaire, une loupe un peu forte. On regarde ces embryons qui se développent et on regarde quels sont ceux qui semblent en meilleure santé. Alors, on dit, ben oui, c'est des personnes qui ont l'habitude de faire ça. Et on met dans l'évier, évidemment, ceux qui semblent être un peu faiblards.
C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, il me semble, l'Église s'oppose à la fécondation in vitro, c'est justement parce qu'il y a un échec pour ceux qui ne sont pas sélectionnés et ces embryons qu'on a créés.
Évidemment, il y a une casse énorme au niveau de la vie humaine elle-même, c'est évident, de la vie qui se développe. C'est comme on coupe le blé en herbe, c'est l'histoire de la myopathie dont je crois que nous avons déjà parlé. L'association de la lutte pour la myopathie est un miroir à deux faces, vous me permettrez de faire cette parenthèse, parce que d'un côté, elle est infiniment charitable, bénévolante, aimante, aidante, collaborante, à l'aide des myopathes, aide immédiate, je veux dire, au confort des myopathes. Conjointement, la double face du miroir est la destruction des embryons, le tamisage des embryons et surtout ce qu'on appelle le DPN, le diagnostic prénatal, qui a pour but d'éliminer dans le sein de leur mère leurs enfants, les enfants par l'avortement. Par exemple, dans le dernier numéro du bulletin de l'AFM, qui est un bulletin très luxueux, c'est une belle revue, qui a des mérites parce qu'elle tient au courant de ce qui se passe, etc. Et elle maintient l'espoir des gens qui ont des myopathes. Eh bien, une femme dit « Moi, je n'ai pas voulu faire le diagnostic pré-implantatoire qui aurait permis de savoir si je portais un myopathe. Je trouve que c'est plus facile d'avoir recours à l'avortement. » Donc, elle va attendre 4 mois de sa grossesse ou peut-être même plus pour savoir si elle a un myopathe. Et après ça, elle s'en débarrassera par l'avortement. Et ça, c'est 100% de mort dans l'état actuel. Si bien quand on aura filtré tous les myopathes et qu'on aura fait disparaître par l'avortement tout ceux qui auront été dépistés par le diagnostic préimplantatoire, eh bien, il se passera comme avec les trisomiques. C'est-à-dire qu'il y en aura de moins en moins ou il n'y en aura plus. Et les recherches sur la myopathie, évidemment, diminueront à toute vitesse.
Bon. C'est-à-dire qu'on arrive à l'effet inverse que ce que l'on souhaitait au départ.
Ben, on arrive
à la guérison, on a coupé même les origines qui... font que le mal existe et par conséquent, on s'interdit le moyen de le guérir.
En réalité, on guérit le malade en le tuant.
C'est
comme
ça.
C'est écrit dans Sganarelle ou dans le médecin malgré lui.
C'est ça.
Alors, c'est évident que cette orientation est tout à fait regrettable et conjointement, l'AFM se développe vers la recherche des cellules souches embryonnaires dont tout le monde reconnaît qu'elle ne donnera des résultats, pas de manière immédiate, mais dans 10 ou 20 ans, au mieux. C'est-à-dire que tous les petits myopathes qui figuraient sur le plateau du Téléthon cette année, si on garde cette orientation-là, seront tous morts. Alors qu'ils ont servi de canard d'appel pour l'argent public. Alors, je connais évidemment bien ce problème-là puisque j'ai eu un enfant myopathe et je suis grand-père de myopathe. Et je suis ça de très près en tant que médecin. Bien, et je vois ce qui s'est passé au niveau de mon fils. Quand on a fait le diagnostic de myopathie de mon fils, c'était il y a 20 ans. Eh bien, il y a 25 ans, on nous a dit dans 2 ans, on vous le guérit. Il n'y a aucun problème. La génétique va tout guérir. Bon. Eh bien, à ce jour, la génétique n'a rien guéri. Et on est toujours au même point, à tel point qu'on parle de bulles génétiques et on parle d'échecs de la génétique. Et même, il y a des savants...
La thérapie génique.
La thérapie génique, oui, n'a jamais donné de résultat, hormis l'histoire des bébés bulles que vous connaissez. Ce sont ces enfants qui ne se défendent pas contre les maladies et qu'on est obligé d'élever dans une bulle en plastique.
Ce qui laisse perplexe Jean-Pierre Diques quant à peut-être l'attribution des fonds dont... ces types de recherches profitent.
Oui, alors il y a un article...
Au détriment sans doute d'autres voies de recherche.
Certainement, parce qu'on peut se dire quand même que les gens qui ont donné au Téléthon pendant 25 ans l'ont donné de bon cœur, par charité, par bonté, mais que ça n'a pas apporté les fruits que l'on pouvait en espérer.
Alors, jusqu'au jour où, il y a des gens qui vous répondront cela.
Oui, jusqu'au jour où, mais en attendant, ce n'est pas le cas. Et on cherche vers d'autres voies. La meilleure preuve, c'est qu'on cherche de devant ces échecs de la thérapie génique, à supprimer le malade par le tamisage et par l'avortement. Donc, ça signe bien l'échec. C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas
à réparer la voiture,
alors on la casse. Vous voyez, ce sont des idées très simples à comprendre. Et ce que j'ai peur, c'est que mon petit-fils soit victime des idéologues. Vous avez dans l'avant-dernier numéro de Science Avenir un article très, très intéressant d'un dénommé Ezekiel Ben Ari. A-R-I, ça s'écrit. Et c'est un spécialiste mondial en neurobiologie. Je pense qu'il habite Marseille et il est le spécialiste mondial de la question de l'épilepsie. Et il dénonce le tout génétique en disant que malheureusement, beaucoup de savants raisonnent en idéologues. Et l'idéologie, c'est que par la génétique, on va tout guérir. Et on se trompe. Par la génétique, on va tout réussir.
Il y a des modes dans la science.
Il y a des modes dans la science. Bon, d'où le fait que je pense que les scientifiques devraient avoir un petit peu plus de, d'humilité, si vous voulez. Ça très certainement. Hein. En tout cas, le schéma qui consiste à dire, oui, un gène donne un caractère génétique, un gène vous donne les yeux bleus, vous voulez avoir des yeux verts ou bruns, on va changer le gène et vous aurez des yeux verts ou bruns. Ça, c'est l'échec le plus total, complet et définitif. Et notamment dans la myopathie. Définitif, ça c'est un schéma qui est obsolète. On sait qu'il y a énormément de facteurs qui interviennent maintenant. Il y a d'autres centres qu'on appelle les centres épigénétiques, il y a des protéines chaperons, il existe aussi de l'ADN qui se trouve au niveau des mitochondries. Et puis le passage du message entre le noyau de la cellule et le cytoplasme qui se fait à partir de l'ADN se fait par ce qu'on appelle les acides ribonucléiques ou ARN. Et ça, on les connaît mal et ils jouent un rôle. On dit qu'ils jouent un rôle de copiste, mais jusqu'à quel point ne modifient-ils pas le livre qu'ils sont en train de copier ?
Jean-Pierre Diques, on se retrouve dans quelques instants. Éclairage avec Jean-Pierre Diques, co-auteur de L'Homme artificiel avec Ghislaine Lafargue. L'Homme artificiel, essai sur le moralement correct, c'est aux éditions de Paris. Jean-Pierre Diques, président de l'ACIM, Association catholique des infirmières et médecins. Il dirige aussi, soulignons-le, les cahiers Saint-Raphaël, une revue donc d'études scientifiques qui fait ce lien avec l'éthique. C'est à la fois la science, la morale, sous le regard de Dieu, si l'on peut résumer ainsi les choses.
Oui, tout à fait. Mais nous sommes des généralistes. Enfin, je veux dire qu'un sujet comme la mort ou comme le handicap ou
le
vin et le poisson, ça concerne tout le monde. Hein,
ce sont toutes les questions qui, en fait, concernent la destinée humaine la médecine. Jean-Pierre Diques, il y a évidemment dans votre propos des aspects assez techniques, juste à l'instant.
Je m'en excuse.
Ce n'est pas forcément très facile pour le profane de savoir exactement ce qu'il en est de certaines techniques, mais j'aimerais lire, pour continuer notre discussion, avant de lire une phrase de Jacques Attali que vous avez citée dans votre ouvrage. Vous nous avez dit en fait une chose, c'est que le clonage reproductif et le clonage thérapeutique, qui sont les deux volets que l'on présente aujourd'hui pour le clonage, Aujourd'hui, on ne fait du thérapeutique, on prétend ne faire que du thérapeutique, alors qu'en réalité, toutes les cellules souches embryonnaires qui doivent donner ces ovules ne visent qu'une seule chose, c'est le clonage reproductif.
Absolument,
donc,
mais c'est même pas moi qui
le dis. Il y a une hypocrisie là-dessus.
Tout à fait.
Le thérapeutique, on l'a laissé de côté et vous nous avez démontré que pour l'instant, il n'y a pas de résultat et qu'en fait, il n'y aura pas forcément de lieu d'être. Et que c'est le clonage reproductif qui est bien en vue.
Mais pro mauvais atour, autant de mauvais atour. C'est-à-dire qu'on fait avancer petit à petit les choses pour arriver au but auquel on veut atteindre. C'est la technique du saucissonnage, si je puis m'exprimer. Il est évident que si on doit avaler un gros saucisson d'un seul coup, alors maintenant, on parle de clonage. Évidemment, le mot fait peur. C'est pour ça qu'on va parler de transfert nucléaire, ou quand d'emblée, on dit, bah oui, on veut faire des grossesses en dehors du sein de la femme. Ah, évidemment, les gens disent non, mais ils sont fous, c'est pas possible. Mais on habitue petit à petit les gens, comme on l'a fait avec l'avortement. Au début, bon, l'avortement devait être une tolérance liminaire pour empêcher les femmes d'aller se faire avorter dans de mauvaises conditions. Et après, c'est devenu une véritable idéologie parce qu'on a l'impression qu'on se réjouit du nombre d'avortements qu'il peut y avoir. Et j'ai entendu moi-même Giscard d'Estaing à la radio parce que c'était l'anniversaire de son départ ou de son arrivée au pouvoir, et il disait mais on retiendra surtout de mon septennat la loi sur l'avortement. Alors on a une perspective qui est complètement renversée parce que d'un côté il s'agissait de limiter les avortements et de cette fois-ci il s'agit de les promouvoir en quelque sorte. Et au début on réprimait l'incitation à l'avortement et maintenant on réprime le fait de dissuader les gens de faire des avortements.
C'est le délit d'entrave à l'avortement, la loi Meillartz.
Absolument, complété par Aubry en fait, complété par Aubry qui va beaucoup plus loin que la loi Meillartz parce que la loi Meillartz concernait les essentiellement celui qui allait dans les avortoirs. Alors que là, c'est le fait simplement d'essayer de dissuader une femme de se faire avorter.
Donc le dispositif s'est aggravé.
Oui. C'est aggravé. Et c'est même un problème pour mes confrères accoucheurs et gynécologues, et notamment mon ancien associé qui est en gynécologie et obstétrique, avec lequel j'ai travaillé pendant 15 ans. Eh bien, il se trouve devant la loi Kouchner. La loi Kouchner exige que l'on dise et que l'on prévienne un patient de toutes les conséquences qui sont attenantes à tout traitement.
Les droits du malade. Hein.
Voilà, ça fait partie des droits des malades. Autrement dit, si je vous donne un comprimé d'aspirine, je suis censé vous donner l'explication de toutes les conséquences que ça peut avoir. Que vous pouvez saigner, que vous pouvez avoir un ulcère d'estomac, que vous pouvez avoir un estomac, etc. Bon. Alors, c'est d'ailleurs très difficile à respecter. Vous comprenez, dans les cliniques, je sais comment ça se passe. On dit aux gens, bon ben voilà, vous voulez être opéré par monsieur un tel, signez une décharge, comme quoi il vous a mis au courant de tout. Alors qu'en réalité, il vous a mis au courant de rien du tout. Alors revenons donc à cela. Donc le médecin est censé dire à sa patiente, ben vous savez, si vous vous faites avorter, il faut savoir que vous risquez une dépression post-avortement, laquelle peut survenir jusque 30 ans après, que vous allez avoir des séquelles terribles au point de vue psychologique, que vous risquez une béance du col avec un accouchement prématuré ultérieur, etc., etc. Mais quand vous avez dit tout ça, sans parler du suicide qui est multiplié par entre 3 et 6 selon les pays et selon les estimations chez les femmes qui se sont fait avorter. Alors ça, c'est un fait, on ne le dit pas, bien sûr. Dans l'idéologie, c'est comme quand on coupait la tête des gens au nom de l'idéologie, quelle qu'elle soit communiste ou nazie. Bon, c'est exactement la même chose. Alors, au nom de l'idéologie, on cache toute une partie de la réalité des choses. Et ça, on ne le dit pas, que le suicide est multiplié par 3 et par 6. Mais le médecin, théoriquement, il doit le dire.
Oui, mais il est pris au piège, là, par une autre disposition.
Il est pris au piège par la loi Aubry parce qu'on va lui dire « Mais dites donc, vous êtes en train de me dissuader de me faire avorter. » Alors, s'il ne dit pas, il tombe sous le coup de la loi Kouchner. Et s'il dit, il tombe sous le coup de la loi Aubry. Vous voyez,
hein ? Ça, évidemment, ça rend les choses extrêmement complexes. J'aimerais lire la phrase de Jacques Attali, si vous le voulez bien.
Bien sûr.
« Bientôt, on ira plus loin encore, en séparant le fœtus de sa matrice, faisant de l'être humain un artefact fabriqué sur mesure. » Avec des caractéristiques choisies à l'avance, et peut-être un jour avec une mémoire, une conscience de soi prédéterminée. En devenant ainsi peu à peu des objets comme les autres, les êtres humains deviendront, pour ceux qui les achèteront, car ils se vendront, des objets de consommation abandonnés dès qu'un modèle nouveau viendra exciter leur désir. L'humanité aura alors achevé son cycle en se concentrant sur ses plaisirs immédiats, en renonçant à toute responsabilité à l'égard de l'avenir. Elle aura perdu sa raison d'être. C'est une phrase d'une densité extrême.
Alors, il faudrait presque...
C'est Jacques Attali dans l'Express, c'était le 2 janvier 2003.
2003, bon. Et il en reprend d'ailleurs une partie dans son dernier livre qui vient de paraître, où là, il dit notamment qu'il est évident qu'on va passer tout de suite du clonage thérapeutique au clonage reproductif, comme vous le disiez très bien tout à l'heure. Alors, cette phrase n'est pas... à tout point de vue, absolument terrifiante. Alors, en tant que catholique, l'article premier du catéchisme, qu'est-ce qu'un homme ? C'est un homme, mais un homme est formé d'un corps et d'une âme. Bon. En réalité, nous sommes dans le cadre d'une philosophie purement matérialiste, c'est-à-dire que la notion d'âme n'existe pas. On se trouve devant un matériau, et ça a été dit par Pierre Simon, qui à l'époque était grand maître de la Grande Loge de France et qui n'a jamais renié ses propos là-dessus, puisqu'il vient de les répéter tout récemment à propos de la loi sur Leonetti concernant l'euthanasie. En réalité, nous assistons à une évolution du courant philosophique matérialiste qui existe depuis le 18e siècle, qui a été véhiculé par un certain nombre de philosophes, d'abord par Kant, ensuite par Hegel, qui a été récupéré par Nietzsche dans une branche qui a donné le nazisme, et par Marx de l'autre, qui a donné le marxisme avec la dialectique marxiste. Bien, le matérialisme dialectique, avec l'homme qui est l'objet d'une évolution dialectique. Bien. Avec les systèmes politiques, c'est-à-dire leur praxis, leur application. L'homme n'est qu'un matériau. Alors, un matériau, on peut en faire ce que vous voulez. Une voiture, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors, vous la fabriquez, on reprend le texte que vous venez de citer, on la fabrique sur mesure. Comme une voiture, on lui donne ses mesures, avec des caractéristiques choisies à l'avance. Ce qui veut dire en terre...
Une mémoire et une conscience, hein, c'est-à-dire
et avec une mémoire et une conscience prédéterminée. C'est-à-dire que ça va plus loin qu'une simple voiture.
Ce n'est pas une fabrique d'organes seulement.
C'est pas une fabrique d'organes. Il s'agit de créer un individu. En fait, il s'agit de créer une espèce de gigantesque disquette informatique. Un espèce d'ordinateur. L'homme sera réduit à un ordinateur qui sera programmé. C'est-à-dire qu'on va vous programmer, c'est ce qu'il dit, une conscience de soi, une mémoire prédéterminée, on va vous programmer pour être cantonnier, ou pour être musicien, ou pour être attiré par les femmes.
Président de la République.
Ou pour être, voilà. Donc, on va faire des programmes et on programmera les individus exactement comme des disques durs ou comme des disquettes entre quelques mains. Alors, cette perspective est terrifiante. Ça n'a rien à voir avec les robots. Vous comprenez bien que ça n'a rien à voir. Il s'agit d'êtres humains. On fera certainement des robots extrêmement sophistiqués, de plus en plus puissants et de plus en plus efficaces. Mais on va faire la même chose de l'homme, dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va le déshumaniser pour le robotisé. Vous voyez ? Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que nous arrivons à cette notion matérialiste de l'homme objet, c'est-à-dire qu'on en fait ce que l'on veut. Et Attali dit qu'on va l'acheter et on le vendra. Ça vous rappelle rien, ça ? Ça rappelle le marché aux esclaves.
Exactement.
Tout simplement. Quand on n'en avait plus besoin, soit on s'en débarrassait en le tuant, soit on le revendait sur la place publique. Alors s'il était vieux et édenté, il valait pas cher. Et si vraiment il valait plus rien du tout, on l'envoyait à la casse. Alors comme il dit, des objets de consommation. L'homme deviendra un objet de consommation abandonné dès qu'un modèle nouveau viendra exciter leur désir. C'est-à-dire, un nouveau type de voiture qui vient de sortir, ça me plaît, ça excite mon désir, je l'achète. Et la phrase la plus terrible dans ce que vous venez de dire, c'est que l'humanité aura achevé son cycle. En se concentrant sur ses plaisirs immédiats, en renonçant à toute responsabilité à l'égard de l'avenir, elle aura perdu sa raison d'être. Dans sa petite histoire de l'avenir, il dit à peu près la même chose. Il dit que l'homme du futur aura comme préoccupation essentielle sa vie érotique. Il n'aura plus à travailler, les préoccupations de son suicide, de sa cave à vin, je ne dis pas non là-dessus, et il aura programmé sa propre mort. Il aura programmé sa propre mort et ça rejoint déjà un livre qui était paru en 1978, où il parlait déjà de machines à euthanasier. C'est-à-dire
qui parlait de ça ?
Attali. Toujours
Attali, déjà.
Oui, il parlait de machines à
euthanasier.
Dès 78.
Alors que le sujet n'était pas vraiment, à l'époque, évoqué dans les médias. Hein.
Il disait que l'homme, à partir de 60-65 ans, n'était plus productif. Donc, il était un poids pour la société, un petit peu comme une voiture que vous ne réussissez pas à réparer parce qu'elle coûte trop cher. Et comme elle coûte trop cher, eh bien, il y a lieu de s'en débarrasser. Et il dit que l'euthanasie sera un des modes de gouvernement ultérieur. Vous voyez ?
Bon. Jean-Pierre Dicasse, on marque une troisième pause.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire ? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique ? Quels sont ses combats ? Quelles sont ses fiertés ? Ses projets ? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
Éclairage avec Jean-Pierre Dicasse, l'homme artificiel, essai sur le moralement correct ou le scientifiquement correct, aussi vous auriez pu titrer de cette manière. Jean-Pierre Dicasse et Godelaine Lafargue, c'est un ouvrage aux éditions de Paris. C'est un peu un roman d'anticipation, là. Enfin, un roman, non, puisqu'on commence à en voir la réalisation.
Cher Annette, c'est
à la fois le meilleur des mondes.
Oui, c'est le meilleur des mondes. Alors, je pense que...
Métropolis
Oui, c'est Métropolis. Alors, tout ça, je citerai largement le meilleur des mondes parce que Aldous Huxley a été un véritable visionnaire, notamment en parlant de l'ectogénèse, c'est-à-dire du développement de l'enfant en dehors du sein maternel. Alors, vous voyez ce que...
Ça, il fallait quand même le faire à son époque, hein.
Ah oui, parce que le livre est de 1938. Hein. Vous voyez, ça rejoint tout à fait ce qui va se passer à la mairie de Paris vers une procréation sans femme. Hein, ça rejoint tout à fait. Donc, il dit les choses 70 ans à l'avance. C'est tout à fait remarquable. Alors que les gens se vendent, mais non, cher monsieur, on y est à plein. Je regardais hier par hasard, tiens, s'il n'y a pas ectogénèse. Je regarde le premier site, il y avait une explication. Deuxième, il y avait un truc. Hop, il y avait des pages entières de femmes dont on avait la photo et qui étaient à vendre, littéralement, à acheter, théoriquement pour le mariage, mais en réalité des objets de consommation, comme dit très bien Attali. Bien, mais regardez, nous sommes en pleine actualité, 18 janvier. Des embryons à la carte aux États-Unis, l'Express du 18 janvier fait un article dans lequel ils disent qu'une clinique privée américaine vend des embryons humains préfabriqués. Des embryons,
à
voilà. 2 500 $ pièce, bah ceux qui les achètent, bien sûr. Hein.
Et pour en faire quoi ?
Eh bien, pour les développer, pour les implanter.
Donc
très
des
vraisemblablement,
scientifiques.
Pas vraisemblablement, non. Pour les implanter plutôt et pour essayer d'avoir des cellules souches, effectivement. Ça semble possible. C'est une marchandisation de l'individu, comme d'ailleurs le dit dans son dernier livre Attali. Il dit que l'homme deviendra l'être marchand, c'est-à-dire qu'il s'achètera et qu'il se vendra. Autrement dit, l'homme est un produit. Vous voyez, donc ces embryons sont des produits. Alors vous allez me dire, mais ça se passe là-bas aux États-Unis. Mais en France, bon, le Comité national d'éthique demande la commercialisation des cellules souches humaines. Bon, mais après ça, on passera aux cellules souches. Quand on dit cellules souches humaines,
ça veut dire embryonnaire ou adulte ?
Ah ben justement, c'est tout l'art de la sémantique. C'est quand on utilise le terme de cellules souches, on laisse croire que ce sont des cellules souches embryonnaires quand il y a des succès. Alors que ce sont des cellules souches dites adultes, en général, des cellules souches issues du cordon ombilical. Je reviens d'Espagne et on n'a absolument pas parlé de cela. Il y avait un article petit, au demeurant, où ils expliquaient que une petite fille était née et au lieu de mettre le cordon ombilical ainsi que le placenta à la poubelle, on avait récupéré cela et on avait récupéré le sang. On en avait extrait les cellules souches. Et cette petite fille, malheureusement pour elle, au bout de 3 ans, commence une leucémie. Eh bien, on va récupérer ces cellules souches du cordon, on les développe. Elles ont un pouvoir de reproduction fantastique. Et tellement fantastique, évidemment, elles sont très très fortes vis-à-vis des cellules cancéreuses qui sont liées à la leucémie et elles les détruisent. Cette petite fille de 3 ans est guérie. clinique Ramón y Cajal de Madrid. Voilà. Ça, vous n'en avez pas entendu parler en France. Ben, c'est ça la réalité. Eh bien, en France, comment on va vous traduire ça en novlangue? On va vous dire « succès des cellules souches », sans vous dire que ce sont des cellules souches, comme vous disiez très bien, adultes, en réalité, des cellules souches qui ne proviennent pas d'un embryon ni même d'un fœtus.
Je déplace un peu le terrain, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Diques, pour les minutes qui nous restent.
Oui.
Bon, bien sûr, on va revenir, si vous le voulez aussi, sur d'autres aspects de votre propos, mais vous avez dit, c'est la marchandisation. On a, aujourd'hui, en période électorale, mais pas seulement en période électorale, lorsque des sommets du G8 se tiennent ici ou là, on a souvent un slogan qui revient, qui est celui des altermondialistes, l'homme n'est pas une marchandise.
Ah, tout à fait, oui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, bon, vous représentez la CIM, qui est, je le rappelle, l'Association catholique des infirmières et médecins, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de réunir une bonne partie de l'humanité autour des propos que vous tenez?
Ah, sûrement, oui.
Mais on entend très peu les altermondialistes s'avancer sur ce terrain-là.
Sur ce terrain-là, oui, parce que si vous voulez, ils ont une vision...
Alors que la marchandise, elle
oui,
est
oui,
là.
Oui, mais ils ont une vision très différente pour partie d'entre eux. C'est qu'ils partent du point de vue que c'est la surpopulation qui est responsable des dégâts écologiques de la planète. Donc, il faut absolument, par tous les moyens, neutraliser cette surpopulation. Et le moyen électif en est évidemment l'avortement et la contraception de manière plus accessoire, si vous voulez. D'où un fossé qu'il est difficile de franchir avec ces gens-là. Ceci dit, moi je suis persuadé que, en tant que catholique, parce que c'est marqué dans l'Évangile, saint Paul en parle, c'est que cette prétention du serpent aura un jour ses limites et que nous sommes en train de payer cela. Parce que si on trahit la nature qui nous entoure, mais si on trahit la nature humaine, les dégâts seront beaucoup plus considérables. Et je crains le pire pour l'humanité. Dans le dernier Science et Avenir, celui de février, vous allez me dire, shit, Science et Avenir, publicité non payée, parce que je n'aime pas l'orientation idéologique de cette revue. Eh bien, vous avez un savant hors de pair qui est responsable d'une unité de prospective de l'humanité. Alors, c'est une unité internationale et il est professeur à l'université de Oxford. C'est ce que l'on pourrait appeler un futuriste, c'est-à-dire que avec des équipes, il étude dit l'évolution de l'humanité telle qu'elle est, avec quels éléments, et il dit que il y a une chance sur deux que pour l'année 2100, l'humanité ait disparu. Bien. Pourquoi ?
Mais 2100, c'est demain.
2100, c'est demain. Alors, il donne, entre autres, comme raison, l'usage inconsidéré des hormones. Alors, vous savez que les hormones, on les utilise pour développer les poulets, pour développer les veaux. Alors, c'est théoriquement interdit, mais ça continue de se faire. Mais évidemment, ça a été les traitements substitutifs de la ménopause, qui ont été aussi donnés larga manu très largement dans tout le monde entier, et dont on dit maintenant qu'ils induisent des cancers, ce qui a fait tomber leur consommation au 10e en Amérique, alors qu'en France, on est toujours dans le cadre idéologique, maintenu par quelques savants qui disent « Non, on n'utilise pas les mêmes hormones, et puis c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes méthodes, et puis c'est pas la même spécialité, etc. » Là, on ergote. Bien. Et puis, bien sûr, la pilule contraceptive. Donc, nous avons déversé dans l'univers, dans cette scène qui coule à côté de nous, des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes d'hormones féminines. Eh bien, la conséquence, elle est très, très simple. Actuellement, on constate qu'il y a une diminution chez l'homme du nombre de spermatozoïdes qui est de 100 000 pour 10 millions. Ce qui est énorme, parce qu'au bout de 10 ans, ça fait 1 million, et en plus, il semble que ce phénomène s'aggrave à toute vitesse. Il y a déjà 2 ans et demi, presque 3 ans, le tiers des hommes des Écossais était stérile. Maintenant, on n'a pas de chiffres récents. Alors, on a essayé de savoir au début, puisque c'est là, à Édimbourg, qu'on avait trouvé cette chose étonnante, par le suivi des spermogrammes sur un très longtemps, et on se dit, mais les spermogrammes sont en train de s'appauvrir. Alors, on a fait des statistiques et on est arrivé à ce chiffre absolument catastrophique, c'est-à-dire que les hommes deviennent stériles. on a incriminé beaucoup de choses, la surconsommation de whisky, le fait qu'on avait supprimé les kilts qui faisaient que les testicules se retrouvaient avec une température plus élevée et que comme les chauffeurs de taxi, on voyait beaucoup de stérilité apparaître chez ces gens-là, bon, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'il semblerait que on voit progressivement une féminisation de l'homme et conjointement, ça se voit dans la nature parce qu'on voit des poissons qui changent de sexe. Dans la nature, on voit des poissons qui changent de sexe d'un seul coup. Alors cette perspective est terrifiante et il est évident que si les hommes deviennent stériles, si de leur côté les femmes ne veulent plus d'enfants, parce que c'est associé à une pathologie, parce que pour...
Oui, pour X raisons sociales,
oui,
en fait.
Oui, parce que pour télécharger un enfant, ça prend 9 mois, parce qu'il y a un risque de...
Télécharger un enfant.
Oui, pour Vous télécharger avez une bonne un enfant, ça met 9 mois et c'est long, et puis c'est dur à porter, etc. Donc, il faut faire comme les féministes demandent, l'ectogénèse, c'est-à-dire le développement en dehors du sein maternel, éventuellement, pour les volontaires, s'il y a un relais à prendre, on fera confiance aux mères porteuses, parce que entre le développement d'un embryon dans un tube à essai jusqu'à ce qu'on puisse le mettre dans une couveuse, il y a un petit hiatus, mais c'est seulement 150 grammes. Hein. On a fait vivre des prématurés de 210 grammes et actuellement, on peut développer des enfants jusque 100 grammes environ, des embryons jusque 100 grammes. Donc il y a encore un petit hiatus qui sera couvert dans les 10 ans. Ça, c'est absolument sûr. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et ça va être couvert dans les 10 ans. Donc l'ectogénèse, telle qu'elle est développée dans le meilleur des mondes, est à la portée de l'homme. La meilleure preuve, c'est que les féministes le réclament en quelque façon. Mais il y a aussi dans le programme socialiste, il y a la rétribution des mères porteuses et la vente des gamètes, c'est-à-dire des ovules et des spermatozoïdes.
Vous avez épluché comme ça tous les programmes pour savoir lesquels.
Ah oui, bien sûr,
oui.
Bah c'est très facile.
Mobiliser
oui.
Sur le point.
Et il est même envisagé la vente d'embryons. Donc on va vendre des embryons, on arrive au meilleur des mondes, tel que la voie Attali, puisque c'est acquis aux États-Unis, et on peut même acheter sur catalogue, par internet, ou même il y a des catalogues où on vous dit, vous pouvez pas avoir d'enfant, et bien vous allez acheter un embryon, et puis alors attention, résultat garanti sur facture, etc. C'est l'univers vers lequel nous nous achevons très certainement.
Merci beaucoup Jean-Pierre Dickès de nous avoir parlé de l'homme artificiel. C'est quelque peu évidemment effrayant et on a du mal quand même encore à imaginer. On essaie de le concevoir, mais ce que vous avez dit notamment sur cette humanité qui sera programmée de telle sorte qu'une partie des êtres humains sera vouée à telle ou telle tâche et l'autre vouée à une autre tâche, oui. C'est quelque chose que l'on voit effectivement dans les romans de science-fiction, mais
oui.
On a du mal à imaginer qu'on est à l'orée de ce type d'humanité.
Ceci dit, mon livre est quand même un avertissement parce que je dis, attention les apprentis sorciers, les Faust, les Frankenstein, où est-ce que ça va nous mener ? Vous comprenez bien que tout ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'éthique, comme on dit, la variation d'éthique, à quoi elle aboutit ? Je vais vous donner un simple exemple et vous comprendrez très très facilement et même je laisserai, si vous le voulez bien, nos auditeurs sur cette notion. J'ai retrouvé les premiers journaux qui parlaient du sida, l'Express, Valeurs Actuelles, Nouvelle Obs, etc. Bon, à cette époque-là, en 75, il y avait 400 cas. Le virus a été découvert en 1981 par le professeur Montagnier. Eh bien, quand il y avait 400 cas, on a dit, le seul moyen qu'il y a de contrer le sida, c'est le préservatif. On est arrivé à 4000 cas préservatifs, 40000 cas préservatifs, 400000 cas préservatifs, 4 millions de cas préservatifs, 40 millions de cas préservatifs. Eh bien, si vous extrapolez cette courbe à 2010, nous aurons 400 millions de cas de sida à cette année-là. De quoi laisser réfléchir sur toute la morale et sur ce que nous sommes en train de faire avec la nature, de ce qui nous a en quelque sorte échappé des mains. Dans la mesure où nous-mêmes, on a voulu le voler à Dieu lui-même.
Merci beaucoup Jean-Pierre Dickès. L'homme artificiel aux éditions de Paris, essai sur le moralement correct, un ouvrage écrit avec Godelaine Lafargue. Merci.